VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Au Tchad, pas de grande mobilisation aujourd'hui à l'occasion du jeudi de la colère préconisée par la société civile pour protester contre l'austérité et la mauvaise gouvernance. Quelques dizaines de personnes à peine, dont le leader de la société civile Mahamat Nouri Bédou, se sont réunies en plusieurs endroits de N'Djamena, la capitale, avant de se disperser. Les manifestations avaient été interdites par le gouvernement pour raisons de sécurité et une forte présence policière était visible sur la plupart des ronds-points de la capitale, alors que la police patrouillait sur certaines grandes artères. Depuis fin janvier, les appels à marcher contre les mesures d'austérité imposées par le gouvernement se sont multipliés, autant que leur interdiction par le gouvernement. 10 partis d'opposition qui avaient soutenu un appel à manifester mardi ont été suspendus pour 2 mois pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence. Les détails avec Dili Diko.
Les activités de 10 partis politiques d'opposition sont suspendues pour une durée de 2 mois, a déclaré le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahamat Bachir. Il avait prévenu mardi que les partis qui tenteraient de défier l'autorité de l'État seraient suspendus. Parmi les partis suspendus figure le Parti démocratique du peuple tchadien, mené par le député Djimet Clément Bagao, leader de la marche avortée de mardi. Il avait affirmé que des manifestants ont été visés par les tirs de la police pendant la marche, mais les forces de l'ordre ont démenti. Les syndicats ont appelé les établissements de santé publique à suspendre le service minimum, alors que la grève générale des fonctionnaires est entrée dans sa 2e semaine. Les syndicats contestent les coupes sur le salaire des travailleurs du secteur public et un nouvel impôt sur le revenu. Cette grogne sociale a pris des allures de fronde contre le régime du président Idriss Déby Itno.
Au Burundi, l'inscription des électeurs pour le référendum constitutionnel prévu en mai 2018 et contesté par l'opposition a débuté ce jeudi et durera jusqu'au 17 février. C'est ce qu'annonce la Commission électorale nationale indépendante. L'enregistrement sur les listes électorales concerne également les Burundais qui deviendront majeurs en 2020 pour les élections générales prévues cette année, selon la Commission. Rappelons que le gouvernement a adopté fin octobre 2017 un projet de révision de la Constitution soumis à référendum qui permettrait au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 2 nouveaux mandats de 7 ans. Burundi toujours, tous les fonctionnaires ont vu leur salaire amputé depuis janvier pour permettre aux autorités de financer l'organisation des élections de 2020. Ce prélèvement va durer pendant 2 ans selon une ordonnance ministérielle. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
C'est un véritable racket d'État. C'est l'enfer car le pouvoir exige, en plus de l'impôt habituel, de cotiser pour la construction d'un stade, d'un bureau du parti au pouvoir, d'un centre de santé. Et maintenant, ce sont les élections, a dénoncé un enseignant. Il a ajouté que toute personne qui ne s'acquitte pas de ses cotisations dites volontaires risque la prison ou de se faire tabasser par les Imbonerakure, la ligue de jeunesse du parti au pouvoir. D'après la presse locale, en plus des prélèvements directs sur leur salaire, les fonctionnaires de plusieurs ministères ont été contraints de cotiser de l'argent qui sera versé dans une banque par leur ministre. Suite à un reportage sur la grogne des enseignants de Ruyinghi contre cette contribution, le journaliste Jean Bosco Nshimirimana a été menacé hier de poursuites pour trouble à l'ordre public et 12 mois d'emprisonnement.
La Gambie, de nouveau admise au sein du Commonwealth ce jeudi, la demande officielle faite par le président gambien Adama Barrow le mois dernier pour que le pays rejoigne le Commonwealth, a reçu le soutien unanime des membres de l'organisation. Décision qui porte de nouveau à 53 le nombre d'États membres du Commonwealth. La Gambie sera invitée aussi à assister au sommet du groupe qui se tiendra à Londres en avril. Rappelons que l'ancien président Yahya Jammeh avait décidé en octobre 2013 de retirer son pays du Commonwealth, une organisation qu'il avait qualifiée d'extension du colonialisme à la consternation générale. Au Mali, l'un des lieutenants du chef djihadiste Iyad Agali succombe à ses blessures. Sidam Ag Tagama, qui avait été grièvement blessé fin janvier 2018 lors d'une attaque contre Ménaka dans le nord-est du pays, a commandé plusieurs opérations contre l'armée malienne et les casques bleus de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'attaque terroriste contre le camp de la garde à Menaka avait fait 5 morts du côté de l'armée malienne. Mais les assaillants avaient enregistré une seule victime. Ils se sont repliés parce qu'ils avaient beaucoup de blessés, parmi lesquels leur chef qui avait conduit l'attaque. C'est quelques jours après que certains groupes armés ont commencé à dire que le chef des opérations Diad a été touché à Menaka. Il s'agit de Sahadam Ag Tahama, l'un des chefs de guerre de Iyad Agali, qui a conduit l'attaque perpétrée contre le camp de la garde à Menaka le 28 janvier dernier. Il est mort par suite des blessures échiées à cette occasion. La mort de ce lieutenant de Iyad porte un coup sérieux à cette organisation terroriste à laquelle s'était rallié le mouvement islamique du Grand Sahara et certains combattants de la CMA évoluant dans les secteurs de Menaka et Ansongo. Sideham avait aussi conduit l'attaque contre les femmes à Gourmararous en avril 2017 ainsi que celle perpétrée contre la patrouille conjointe Fama Minusma. Il avait été aussi vu lors de certaines attaques dans le cercle de Nara et aux alentours de la forêt de Ouagadougou, jusqu'à la frontière Mali-Mauritanie. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le président de la Commission de l'Union africaine a fustigé ce jeudi à Pékin l'enquête du journal français Le Monde selon laquelle la Chine a espionné le siège de l'Union africaine en Éthiopie. Moussa Faki Mahamat, en visite dans la capitale chinoise, a qualifié ces allégations de mensonges et plaidé pour le renforcement de la coopération sino-africaine. Actualité scientifique, l'homme d'affaires américain Elon Musk se rapproche de son rêve de coloniser la planète Mars. Suite au lancement mardi de la fusée la plus puissante au monde, Falcon Heavy, de sa compagnie SpaceX, ce visionnaire a montré au monde entier qu'il était capable de mettre sur orbite de gros satellites. Nathalie Borges a joint l'astronome Pierre Bracci à l'Observatoire de l'Université de Genève, en Suisse.
Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'ils arrivent à envoyer une fusée et récupérer les deux boosters. Et ça, je dois dire que, du point de vue technologique, c'est fort. Pour rappeler une chose, hein, c'est qu'elle peut envoyer 60 tonnes en orbite basse, alors que les Européens qui sont en train de construire une fusée Ariane 6, ce sera une fusée qui sera à peu près 3 fois moins puissante. Les Américains, avec le système SLS qui dure depuis je ne sais combien de temps, n'ont toujours pas réussi à envoyer leur fusée hyper puissante qui devrait envoyer à peu près le même genre de poids.
En matière de coûts, est-ce qu'il arrive à vraiment, on va dire, casser les prix ? Et est-ce que cela, justement, permettra plus de progrès en faisant ce type d'économie ?
Alors là, c'est peut-être pas encore tout à fait gagné, hein, parce que justement, je parlais d'Ariane 6, là, la fusée européenne. Eux, ils devraient arriver à peu près pas beaucoup plus cher que la fusée Heavy de Elon Musk. Elle, ça sera pour 2020, apparemment. Donc, il a quand même un petit peu d'avance, mais du point de vue coût, c'est pas encore tout à fait gagné, même si, comme je vous dis, là, il vient quand même de frapper un grand coup, et puis qu'il pourra envoyer, en fait, des charges un peu plus lourdes.
En revanche, est-ce que cela permettra finalement à la NASA de se passer de l'aide des Russes, notamment par rapport à leur vaisseau Soyouz?
Ouais, alors Elon Musk, il a réussi à envoyer une fusée, mais il n'a pas encore réussi à envoyer des êtres humains. Et pour envoyer des êtres humains, je ne sais pas encore si on peut dire qu'il a gagné. Parce que les Russes, avec leur fusée Soyouz, eux, c'est devenu quelque chose de, on va dire, quasiment machinal. Hein. Je veux dire, ils envoient les hommes dans la station spatiale. Donc quand ils nous promettent d'envoyer des hommes sur Mars en 2024, moi, je serais quand même très prudent.
Et le véhicule flottant dans l'espace, la fameuse voiture, là, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors là, c'est plutôt un grand coup de pub, hein, je veux dire, d'aller mettre sa voiture dans l'espace. D'abord, un, je vois pas l'intérêt, et deux, il y a déjà assez de déchets comme ça dans l'espace. Et il y a 2 ans, les Chinois ont perdu un satellite. Ce satellite est rentré en contact avec un petit déchet, et même à 28 000 km/h, eh bien, ça a fait exploser le satellite. Donc voilà, il a pas voulu mettre un vrai satellite dedans pour ne pas risquer la vie de ce satellite. Parce que les satellites, ça peut vite être 100, 200, 300, voire 500 millions de dollars. Il a dit, on va faire comme s'il y avait un satellite pour montrer qu'il était capable, avec cette fusée, de mettre quelque chose en orbite autour de la Terre. Je pense que la prochaine, il va avoir des clients pour pouvoir mettre en orbite des satellites avec cette grosse fusée, cette fusée très puissante, où il pourra mettre des gros satellites en orbite.
l'astronome Pierre Bracci à l'Université de Genève en Suisse. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.